SCL l'équipe.
Troisième course gagnante.
Carrément tennis.
Superbe attaque de coup droit.
Eric Silvestro.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les jeudis pour une heure de tennis sur l'antenne de la radio, du sport et de l'info. Carrément tennis consacré bien sûr à la saison sur terre battue. La nouvelle victoire de Rafael Nadal dimanche, c'était à Barcelone, un sixième titre pour lui en Catalogne après le septième remporté consécutivement à Monte Carlo la semaine précédente. 45e titre de sa carrière, le 31e sur terre battue. Rafael Nadal peut-être reparti pour une saison pleine sur terre battue, mais peut-être seulement, car on attend de voir ce que ça donnera face à l'invaincu, l'invincible du début de saison 2011, Novak Djokovic, le Serbe qui après trois semaines de coupure est de retour aux affaires chez lui, dans son tournoi, dans son club. Sollicité de toutes parts du côté de Belgrade, il a remporté son premier match hier face à Ungur et joue aujourd'hui contre Kavčić. Tout va bien pour Novak Djokovic qui a un nouveau secret à nous dévoiler, celui de son psychonutritionniste Igor Setojevic qui a mis fin à toutes ces allergies, alors simples comme ou vrai plus pour Novak Djokovic. On en parle ce matin dans Carrément Tennis. Il sera aussi question des autres joueurs qui brillent sur terre battue, notamment David Ferrer, deuxième finale consécutive à Barcelone après celle de Monte Carlo, et puis Nicolas Almagro, le talentueux espagnol qui fait son entrée dans le top 10 pour la première fois. Le retour aux affaires également de Juan Martín del Potro sur terre battue et de Fernando González, de retour lui sur le circuit après 8 mois d'absence et une opération à la hanche. Nous parlerons également des Français, mi-figue, mi-raisin notamment. Joe Wilfried Tsonga battu dès son entrée en lice du côté d'Estoril par Cuevas. Vite un coach peut-être pour Joe Wilfried Tsonga d'ici Roland Garros. Et puis chez les filles, petite actualité mais gros buzz de Caroline Wozniacki, la Danoise numéro 1 mondiale, qui annonce via son père peut-être un début de collaboration avec Martina Navratilova. Info ou intox?
RTL l'équipe, Carrément Tennis.
N'est pas coutume, avant de saluer les présents, je vais saluer les absents qui nous écoutent peut-être de leurs diverses occupations. Benoît Mélin est à Londres, Émilie Lois s'occupe de futurs bébés parce qu'elle a des petites visites à faire, on en souhaite que tout se passe bien pour elle. Julien Varlet commente à la télévision et Carole Bouchard, pour la première fois de sa vie, a pris deux jours de vacances du côté de la Baule. Bonjour à tous, chère équipe habituelle, revenez-nous vite la semaine prochaine. Heureusement, ils sont suppléés. Non pas par Myrtille Romion, qui elle est toujours là. Salut ma Myrtille.
Salut Eric.
Tout va
bien. Toujours, toujours.
Tout va très très bien.
Toujours là. Elle était.
Quand c'est Clément qui présente, non, je ne viens pas.
Ah, Clément Grèce qui a présenté Carrément Tennis la semaine dernière en mon absence. Merci mon cher Clément.
Ce fut un plaisir.
Mes vacances étaient très agréables.
Ça me fait plaisir aussi.
Je suis sûr que ça s'est très bien passé pour vous.
Très bien passé. Bonjour à tous.
Et un petit nouveau, vous l'avez déjà entendu dans Carrément Tennis et sur l'antenne d'RTL l'équipe. Un jeune retraité mais toujours aussi brillant pour nous parler du tennis. C'est monsieur Philippe Bouin de l'équipe. Enfin, plus de l'équipe d'ailleurs, mais de l'équipe quand même, parce que vous resterez à jamais de l'équipe, mon cher Philippe.
Bonjour Eric.
Tout va bien?
Tout va bien.
La retraite se passe bien?
Impeccable.
Ça fait du bien, mais
impeccable.
Le tennis est toujours dans vos veines, je le sais. On va parler ce matin de tout ce qu'on a évoqué dans le sommaire, notamment, commençons bien sûr, ma chère Myrtille Rambion,
oui,
par Rafael Nadal. Nous nous étions quittés il y a une semaine, Myrtille à Monte Carlo, tous les deux, sur la victoire de Rafael Nadal au Master 1000 face à David Ferrer. Rebelote à Barcelone face au même adversaire. C'était, on va dire, prévisible.
C'était prévisible, même si on l'avait trouvé, souvenez-vous, quand on a commenté cette finale sur RTL Équipe à Monte Carlo, un petit peu en deçà, Rafael Nadal, un peu moins bon. Mais c'est parce qu'on a envie qu'il soit excellentissime et brillantissime à chaque fois. C'était prévisible, effectivement, mais ce qui est encore plus intéressant, je trouve, c'est d'avoir retrouvé les deux mêmes en finale. David Ferrer, qui montre, on le sait que c'est un excellent joueur, qu'il a l'âme d'un top 10 depuis des saisons et des saisons, mais il montre qu'il est bien là, donc je pense que sur le reste de la saison sur terre battue, il va falloir faire attention à lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que Rafael Nadal, on le dit à chaque fois, mais c'est vrai, il continue à progresser, il continue à travailler sur cette surface qui est pourtant sa meilleure surface.
Et Philippe, il gagne à Monte Carlo et à Barcelone un peu de la même manière, en ne jouant pas très bien. À Monte Carlo, il a fait peut-être son meilleur match contre Richard Gasquet. À Barcelone, c'était sans doute celui contre Gaël Monfils. Pour le reste, c'était pas encore génial.
Non, c'était pas génial. C'est pas du meilleur Nadal. Alors qu'on l'avait vu l'an dernier à Monte Carlo, justement, jouer très 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 bien. Qu'est-ce que ça annonce? C'est difficile à dire. Hein. On est toujours dans le cas d'un joueur comme ça, dans l'attente de merveilles. Est-ce que c'est bon signe? Est-ce que ça veut dire qu'il a beaucoup de marge devant lui? Sûrement. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même un tassement derrière lui, c'est-à-dire qu'il peut se permettre de gagner en jouant comme ça. Et la présence de Ferrer est effectivement un bon signe pour Ferrer, mais Ferrer, on sait que c'est un étalon de qualité, mais qu'il dépasse rarement un certain niveau. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, les réglages des autres joueurs ne sont pas encore au point non plus, les autres Espagnols entre autres, et puis d'autres candidats sur terre battue. Nadal, lui, On peut être sûr qu'il jouera très bien Roland Garros. Après, à quel niveau par rapport à l'an dernier, c'est très difficile à dire.
Le fameux niveau moyen qu'évoque souvent Julien Varlet. Clément, pour Nadal, il est toujours très haut sur terre battue.
Mais finalement, c'est presque angoissant, je trouve, que David Ferrer soit aujourd'hui le principal adversaire en l'absence de Novak Djokovic. Évidemment, on va l'attendre et on va voir à quoi va ressembler la confrontation entre les deux. Mais savoir que c'est David Ferrer aujourd'hui le principal adversaire de Rafael Nadal sur terre battue, eh ben, ça laisse quand même augurer des futures semaines pas forcément hyper excitantes au niveau des affrontements, parce que on se rend compte que effectivement David Ferrer, enfin, il a sans doute progressé, mais je suis complètement d'accord et avec ce que dit Philippe, c'est-à-dire que ça sera jamais un danger pour Rafael Nadal, c'est-à-dire qu'il va vouloir chercher à le prendre sur son jeu et son jeu ne présentera jamais le moindre danger pour Rafael Nadal. Il sera toujours au-dessus. Donc voilà. On se dit aujourd'hui, et le principal enseignement de ces deux premières semaines, c'est qu'il n'y a qu'un seul adversaire pour Rafael Nadal sur terre battue, c'est sans doute Novak Djokovic, et on n'en est même pas sûr.
Ouais, mais je vous trouve un peu sévère, parce que avant, peut-être que le seul adversaire de Rafael Nadal sur terre battue, c'était Roger Federer, même s'il le dominait largement. Là, aujourd'hui, on n'a pas encore vu Novak Djokovic, et on va y venir sans doute à Madrid et à Rome. Andy Murray a quand même montré de très belles choses à Monte Carlo, même s'il a coincé après, et Federer, bon, on l'a un petit peu perdu en route. Donc, quelque part, c'est pas non plus tellement changeant, Philippe, par rapport aux années précédentes. Il n'y avait pas avant 10 adversaire potentiel pour Rafael Nadal sur terre battue.
Non, c'est vrai, vous avez raison. Entre autres, Djokovic, on sait déjà, c'est même pas la peine de se poser la question, on sait déjà que quand il est en forme et qu'il joue bien, il peut être un rival pour Nadal sur tout terrain. On l'a vu à Madrid il y a deux ans, ils avaient fait une demi-finale absolument extraordinaire.
4-3 minutes.
Qui avait d'ailleurs coûté la suite de la saison à Djokovic, ou à peu près. Et Djokovic a le potentiel, surtout en fonction de ce qu'il a montré cette année, ça fait aucun doute. Moi, je trouve que le signe le plus intéressant pour les adversaires de Nadal, c'est peut-être les premières fois que je vois Nadal dire qu'il a des problèmes de concentration. On l'a vu je crois que c'était à Indian Wells ou à Key Biscayne, à Miami maintenant, disant que par moment dans les matchs il a des problèmes de concentration. Et ça, moi j'ai l'impression que c'est un petit signe de début d'usure. Parce qu'un joueur de niveau de Nadal qui évoque des problèmes de concentration, enfin du niveau de Nadal, du type de Nadal, quelqu'un qui était sur tous les points, qui est sur tous les points, qui a besoin d'être engagé sur tous les points, et qui avoue qu'il décroche à certains moments de certains matchs importants, ça c'est un signe qui me demande d'aurait du courage si j'étais l'adversaire de Nadal.
Ouais, de notre côté.
Est-ce que c'est pas plutôt encourageant justement pour la gestion de la carrière de Rafael Nadal? Parce qu'il, est-ce qu'il a pas besoin justement de se laisser quelques moments de respiration dans des matchs qui sont à sa main pour pouvoir durer un petit peu plus longtemps et faire une carrière un petit peu plus longue?
Ouais, mais là, c'était pas dans des matchs qui étaient à sa main, c'était dans des matchs contre Djokovic. Et moi, ce qui m'intrigue, c'est que les joueurs qui sont dans le style de Nadal et qui jouent disons un peu un jeu d'usure, ce qui n'est pas exactement son cas, mais un jeu de concentration permanente, comme l'était Borg, comme l'était Vilander, si on prend d'autres joueurs, il y a un moment où ils n'arrivent plus à se concentrer tout à fait autant. Moi, j'ai l'impression qu'un joueur a un nombre limité de balles à taper dans sa carrière et à concentration maximale. Et donc, à ce moment-là, quand on commence à voir s'effriter cette capacité chez ces joueurs-là, c'est un signe. Ça peut être un signe de fragilité, de fragilisation de leur armure, grosso modo.
Alors, le petit bémol, peut-être par rapport à ces finales que vous évoquez, Philippe, de Indian Wells et Miami, c'est que c'est toujours dans la phase où Rafael Nadal n'a pas encore gagné de tournoi. L'année dernière, souvenez-vous, ça avait duré 11 mois avant Monte Carlo. Cette année, ça a duré un petit peu moins puisqu'il avait gagné Tokyo en fin de saison dernière. Et c'est vrai que Nadal a besoin aussi de se rassurer en gagnant et que ce petit manque, à mon avis, qu'il y a eu à Indian Wells et Miami, vient peut-être aussi du fait qu'il n'avait pas encore gagné de tournoi. Et en général, quand il commence à gagner sur Terre, ça lui redonne la petite différence de confiance qui lui a manqué aux États-Unis.
Oui, moi j'agrée à tout ce que tu dis, mais si vous voulez, le seul petit point, c'est quand un joueur commence à dire j'ai des problèmes de concentration, c'est un signe souvent. Et en particulier chez des joueurs de ce style de jeu-là. Bon, on se dit, j'espère me tromper, parce que j'ai pas envie de voir Nadal s'user trop vite. Donc, c'est pas du tout mon souhait, mais c'est la première fois que j'entends dire ça, ce qui lui est arrivé de sortir de match, mais différemment. Pas contre un grand joueur, pas dans un grand match. Il est arrivé d'avoir moins confiance, de faire une double faute ou deux, oui, mais pas dire je suis sorti du match pendant un certain temps.
Et Mirti, on l'a vu par exemple à Monte Carlo, ça me fait penser à ça. Dans le deuxième set face à Andy Murray en demi-finale, il est mené 4-1, il revient à 4-2, il débreak, et puis il lâche complètement trois jeux derrière, mais pas. Il les balance pas, mais pour Nadal, ça arrive pratiquement jamais de le voir limite aller s'asseoir sur sa chaise avant même que la mortier rebondisse.
Ouais.
Et bon, derrière, il a parfaitement.
C'est vrai qu'on l'avait souligné. C'était une attitude qu'on lui a jamais connue, celle de effectivement balancer, se dire bon, c'est bon, ce set, il est mort. Mais même finale Miami, il mène 4-1 si je ne m'abuse dans le premier set face à Djokovic. Alors, il gagne cette première manche, mais 6-4 seulement, et il a permis à Djokovic de se mettre dans le rythme, de revenir effectivement. Et c'est ce qu'on a vu peut-être arriver à un Federer aussi, qui maintenant se déconcentre et rate même à des moments où on le voit parce que son niveau de jeu est toujours là. On peut dire, bien sûr, il vieillit, il a 30 ans, il va un peu moins vite que les autres. Mais quand il joue de manière exceptionnelle, il est toujours bien au-dessus de la plupart des très bons joueurs. Et ben, il y a cette petite saute de concentration qui fait que la porte est ouverte et qui laisse l'adversaire en face revenir dans le match.
Sauf que chez Roger Federer, c'était vraiment inscrit dans ses gènes. Il a, tout au long de sa carrière, eu comme ça des sautes de concentration. C'est quelqu'un qui a eu besoin de beaucoup travailler. Enfin, jeune joueur, Roger Federer, c'était pas l'exemple type du joueur qui était capable de se concentrer pendant toute la durée d'une rencontre. Donc lui, c'est vraiment le fruit d'un travail, et que ça s'effrite, c'est presque plus compréhensible que quand, par exemple, chez Rafael Nadal, on a l'exemple type d'un joueur qui n'a jamais eu besoin de faire d'efforts particuliers pour se concentrer, pour rester dedans à 100% dans un match, alors que chez Roger Federer, bon bah voilà, finalement, c'est juste qu'il a travaillé pendant 10 ans pour rester concentré pendant les matchs, et qu'aujourd'hui, à un moment, c'est un ras-le-bol.
Philippe ? Non mais c'est vrai, mais moi je veux pas jouer les prophètes de malheur hein, pour Nadal, mais c'est le phénomène du vieillissement des sportifs en tennis en particulier, mais dans d'autres sports aussi, le golf c'est pareil, il se remarque, bon, physiquement, effectivement, on peut avoir des blessures, une usure, mais c'est souvent dans ces problèmes de concentration. Un joueur un peu usé ne sait pas du jour au lendemain s'il va bien jouer ou mal jouer. Il y a souvent des jours où et on le voit avec Federer, et de ça, si Federer n'aime pas qu'on parle de déclin, mais on peut dire qu'il a passé son apogée justement à ces signes-là. C'est qu'il n'est plus capable d'être prêt au moment voulu. Il y a ça, et dans les matchs, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a Federer, vous aviez raison, quand il a commencé, il était très, très, très dissipé et très nerveux. Mais pendant 3 ans, il n'a pas connu, 3 ou 4 ans même, c'est ce qui est incroyable, il n'a pas connu quasiment un moment de relâchement. Et c'est quand ces petits moments de relâchement sont apparus qu'il est devenu fragilisé, parce que ces moments de relâchement font qu'on joue un peu moins bien, donc on doute un tout petit peu, donc on est moins sûr de soi.
Et c'est toute une bascule.
Ouais. C'est toute une bascule. Enfin, j'espère me tromper.
Et est-ce que l'usure que vous évoquez se traduit aussi par rapport aux éléments? Parce que je pense là au match de Federer à Monte-Carlo qu'il perd cette année dès les quarts de finale, avec ce vent et ces conditions face à Melzer qui étaient vraiment pas très agréables pour jouer au tennis. Est-ce que quand on a usé justement tous ces balles à taper que vous avez évoquées tout à l'heure, on se dit, bah, aujourd'hui, voilà, il y a du vent, j'ai pas envie, je suis pas bien.
Si on se rappelle la carrière de Federer, justement, quand il était jeune, il détestait jouer dans le vent. Il avait perdu contre Arnaud Clément à Sydney un match pourri, contre Grosjean, des matchs pourris. Où le premier match qu'il joue, je crois, sur le grand circuit, c'est à Miami, à Key Biscayne, un jour de grand vent. Et moi, je me rappelle que je découvrais Federer, je n'avais pas vu qu'il était junior, et j'avais écrit, s'il continue comme ça, il n'arrivera à rien, parce qu'il avait tout balancé.
Donc,
il avait tout balancé, oui, tout à fait. Il avait tout balancé. Oh, bah, y a des gens qui sont allés voir certains joueurs, jeunes joueurs suédois qui jouaient le tournoi junior à Wimbledon et qui en sont venus, deux experts, en disant, bah, celui-là, on est sûr qu'il gagnera jamais Wimbledon. C'était bon. Donc, voilà. On peut dire
les limites de notre métier,
voilà,
sont assez
exactement
simples à cerner.
Et ce que je viens de dire sur Nadal est peut-être une énorme bêtise, mais on retrouve chez les joueurs des processus qui sont des processus de concentration, et Federer retombe un petit peu dans les péchés de sa jeunesse, absolument, et parce qu'il n'arrive plus, je pense, à être totalement focalisé, à oublier complètement ce qui se passe autour de lui.
Alors, autre particularité dans le jeu et dans l'évolution de la carrière de Rafael Nadal, pendant très longtemps, on a parlé de son coup droit, l'assaut et de ce revers qu'il fallait faire progresser, et que dès qu'on arrivait sur terre battue, ce coup droit devenait terrible. Là, on se rend compte, puisqu'il ne joue pas très bien depuis le début, malgré ses victoires à Monte-Carlo et à Barcelone, on se rend compte que le problème vient désormais du coup droit. C'est-à-dire que le revers est arrivé à un niveau moyen qui est d'une solidité exemplaire sur terre battue. Et les plus gros problèmes qu'il a eu depuis 2 semaines, Myrtille, c'est avec ce coup droit, justement.
C'est avec ce coup droit. Alors, le fameux coup droit à l'assaut, c'est vrai qu'en finale à Monte-Carlo et même en demi-finale, il n'y en a pas eu tellement que ça.
Beaucoup de fautes.
En même temps, faut pas oublier que malgré tout, même s'il fait moins mal avec, quand vous prenez un rebond au-dessus de l'épaule, 2 rebonds au-dessus de l'épaule, 3 rebonds au-dessus de l'épaule, faut remettre vraiment. Donc ça reste quand même quelque chose qui use. Maintenant, on sent qu'il est pas complètement là, qu'il est pas complètement content de son jeu. Lui dit qu'à l'entraînement, carrément, c'est pourri. Alors moi, j'irai pas jusque là, mais en tout cas, il y a peut-être un petit problème de déplacement en particulier. Et côté coup droit, on voit qu'il arrive plus à être aussi rapide. Est-ce que c'est une blessure? Est-ce que c'est l'usure? Est-ce que c'est tout ça? Je sais pas.
On en revient toujours à ces éternels problèmes de genoux. Et je pense que Nadal a peut-être aussi compris à l'intersaison notamment qu'il y avait un certain nombre de points sur lesquels il fallait qu'il fasse attention, et notamment sur son corps. Et peut-être est-il en train de mettre en place justement des choses dans son jeu, une forme de déplacement, une façon de se déplacer qui est nouvelle, et notamment sur terre battue qui use énormément, pour essayer de prolonger un petit peu une carrière que tout ça annonce courte, parce que il est potentiellement blessé, potentiellement gravement blessé à ses genoux, et qu'on ne le verra pas très longtemps. Mais voilà, enfin, je maîtrise évidemment mal le corps de Raphaël Nadal. Enfin, c'est un aveu. Hein, mais voilà, je me dis que ça peut être une des données du problème.
Non, mais est-ce que le fait que désormais son revers soit extrêmement fort change aussi un petit peu la donne? C'est-à-dire qu'il se sent fort de ce côté-là, donc il continue à tourner autour, bien sûr, pour préférer jouer en coup droit, mais peut-être moins qu'auparavant. Il sent peut-être moins le besoin d'être hyper fort en coup droit. Et est-ce que tout ça, dans la tête, ça n'influe pas, Philippe, dans l'approche de son jeu? Il a désormais un meilleur service, un meilleur revers. Quelque part, le coup droit est moins primordial.
Alors, je dois vous avouer que moi, je ne maîtrise pas totalement la tête de Raphaël Nadal non plus. Non, mais oui, on peut, toutes les hypothèses sont possibles. Le déplacement est un point clé pour lui. On l'a vu très souvent quand il commençait à avoir des problèmes justement sur le coup droit la saison précédente. C'était effectivement très souvent à cause d'un problème de genou. Il allait un petit peu moins vite, il était un peu moins placé, donc il tapait un peu moins son coup droit. Et tout l'engrenage de son jeu perdait de sa vigueur, de sa force. Le rééquilibrage du jeu du côté du revers est certain, mais il aura toujours besoin de se décaler en coup droit pour faire vraiment mal, parce que le revers, autant le revers peut être une vraie arme, je pense, sur surface plutôt rapide, parce qu'il peut prendre la balle assez tôt en revers, autant pour sortir le joueur du court, comme le disait Myrtille, pour lui faire mal, il a besoin de son coup droit quand il a un échange long. Donc, mais ça peut être tout simplement une question de réglage. Rappelez-vous, il y a d'autres années aussi, on se disait, oh là là, le coup droit de Nadal. Mmh. Je me rappelle avoir vu perdre contre Davydenko à Miami, on se disait, oh là là, mais il est fini. Donc, faut pas non plus tomber, non. Parce que là, tout ce qu'on dit, c'est quand même un joueur qui n'a pas perdu sur terre.
Exactement, depuis 34 matchs.
Qui vient de gagner deux tournois de suite et qui va peut-être en gagner un troisième dans la foulée. Donc, il faut rester très, très, très raisonnable là-dessus. Nadal est toujours très très fort, mais bon, on peut se poser quelques petites questions, c'est ça qui est amusant dans le sport.
Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu pouvais laisser entendre. Je crois pas que Raphaël Nadal se dise « Oh, j'ai progressé en coup droit, en revers, j'ai progressé au service, donc je vais pouvoir me laisser aller sur mon coup droit », parce que je pense que c'est quelqu'un qui cherche l'excellence.
Non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que en général, on dit toujours tu travailles tes coups forts ou tes coups faibles. Il y a deux politiques. Soit tu taxes sur tes coups forts, soit tu taxes sur tes coups faibles. Lui, il travaille tout. On
le sait
tous.
Et je pense qu'il est profondément pas satisfait de ce qu'il a montré en coup droit depuis le début. Et il va forcément chercher à le tirer vers le haut. Il va pas se contenter de la satisfaction d'avoir progressé et au service et en revers. Donc, voilà, je crois pas qu'il y ait pour le coup un effet bascule. J'ai progressé d'un côté, donc je peux un peu me laisser aller de mon côté fort. Je suis pas sûr que ce soit vraiment son état d'esprit.
Autre différence aussi dans l'approche des matchs et peut-être de cette gestion coup droit revers. On a beaucoup parlé pendant longtemps de son mano à mano avec Roger Federer, avec ce fameux coup droit lifté qui allait sur le revers à une main de Federer et qui lui faisait si mal. Aujourd'hui, la donne est un petit peu différente avec des joueurs comme Novak Djokovic ou Andy Murray, ou je rajouterais même un Juan Martín Del Potro dans l'eau, avec des joueurs à revers à deux mains très grands qui sont beaucoup moins gênés par le lift de Raphaël Nadal au niveau de la hauteur et qui peuvent aller le chercher justement en revers sur son coup droit à lui lorsqu'il laisse de l'espace.
Mais attendez, il faut tenir. Encore une fois, ça change tout, mais c'est peut-être sur un point, un jeu, un set, allez, un match. Mais quand même, malgré tout, là, on a l'impression que Raphaël Nadal, il est devenu nul, quoi. Non, mais ça fait toujours super mal.
C'est
intéressant de parler, par exemple, avec Gilles Simon, qui est un des garçons avec lequel Raphaël Nadal aime bien s'entraîner, parce que ça, c'est un des seuls qui physiquement est capable de tenir. Et il explique que quand vous tapez avec lui des gammes sur dur, vous pouvez encore, parce que cette balle, elle arrive à hauteur d'épaule, mais un petit peu moins haute, et que vous pouvez à la limite rentrer dedans, que ça reste quand même très compliqué, mais que sur terre battue, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une fois, deux fois, trois fois, quatre fois qu'il faut remettre, et que là, ça devient plus compliqué. Donc effectivement, ça leur fait moins mal à ces joueurs-là qui sont plus grands, qui ont un revers à deux mains, mais enfin, faut quand même assurer sur la durée.
Un petit mot
et sur les 5-7 à Roland
Garros. Sur les chiffres, Raphaël Nadal a donc remporté un 6e tournoi à Barcelone. Il n'avait pas joué l'an dernier, souvenez-vous. Il vient de passer le cap des 500 matchs gagnés sur le circuit, 501 exactement avec sa victoire à Barcelone. Et il en est à 45 titres dans sa carrière sur 60 finales disputées, ce qui nous fait un ratio de 3 sur 4, de 75% de finales gagnées. Ça, quand même, c'est pas anodin, Philippe Bouin. 75% de finales gagnées.
C'est absolument pas anodin. C'est un des plus grands gagneurs de matchs de l'histoire du tennis. C'est pour ça, justement, que moi, je suis intrigué par ces petits problèmes de concentration. Voilà, c'est la question que je me pose en ce moment. Et j'ai hâte de le revoir contre Djokovic sur terre battue, pour voir ce que ça va donner justement à ce niveau-là. Parce qu'au niveau jeu, je suis sûr que ça va aller, mais c'est au niveau de la tête.
Tiens, dans l'actualité, on a beaucoup parlé du football et du Real Madrid-Barcelone qui s'est joué hier avec la victoire de Barcelone 2-0 à Madrid.
Super doublé.
On a parlé beaucoup de Mourinho, de l'influence psychologique. Un Novak Djokovic là, qui à Belgrade déclare « J'ai hâte de jouer Raphaël Nadal aussi sur terre battue. » Et je sens que je peux le battre parce que je l'ai battu récemment dans des finales. Et que donc, en gros, il nous explique, Novak Djokovic, qu'il a l'ascendant psychologique. Ça va être intéressant, ça, de voir ça dans les prochaines semaines.
Ouais, le vrai problème de ce duel entre Novak Djokovic et Rafael Nadal, c'est un peu le même problème que celui qu'on avait avec Roger Federer et Rafael Nadal pour Roland Garros. C'est-à-dire qu'on va tous tendre vers la finale rêvée. Mais que finalement, les 15 jours du tournoi, c'est pas qu'on en aura rien à faire, mais presque, quoi. C'est-à-dire qu'on va juste suivre le parcours vers la finale de Rafael Nadal.
Non, mais il va y avoir Madrid et Rome d'abord.
Oui, mais, tout va tendre vers ce duel, parce qu'on sait à peu près, et c'est un peu le drame quand même de cette ultra-domination de Rafael Nadal sur terre battue. C'est-à-dire que on n'attend plus que les finales. Les tournois sont...
Non mais là je suis pas d'accord. Si on parle de Roland Garros, un Söderling, faut voir comment il va revenir, mais il peut le refaire.
Mais il s'est remis à gagner un match, il a battu Chardy à Estoril en 3-7.
Non mais des joueurs comme ça peuvent sur un coup, on les a vus battre. Qui aurait pensé qu'il battrait Rafael Nadal comme ça? On n'est pas à l'abri d'une surprise sur 15 jours s'il a un coup de moins bien, s'il est blessé, si... Allez savoir.
C'est vrai. Mais il y a peu de joueurs qui potentiellement, en effet, semblent en mesure d'inquiéter Rafael Nadal. Novak Djokovic, on va y venir dans quelques minutes. Restons quand même 2 secondes sur Ferrer. En effet, Ferrer, victoire à Acapulco, finale à Monte Carlo, finale à Barcelone.
Plafond. Moi, je l'appelle
pas mal
plafond,
comme plafond.
Ferrer. Non, mais c'est un super joueur, attention, hein, mais c'est plafond, quoi.
C'est pas un faux plafond.
C'est un vrai plafond.
Un vrai plafond.
C'est-à-dire qu'il sera toujours 2 ou 3 sur terre battue et il ira sans doute en demi parce qu'il est assez au-dessus de tous les autres. Mais il sera pas menaçant ni pour l'un ni pour l'autre.
Non, mais il peut être menaçant pour d'autres dans la perspective d'arriver jusqu'à Rafael Nadal. C'est-à-dire que c'est un joueur qu'on ne peut pas écarter comme ça. Voilà, on sait que contre Nadal, normalement, ça coince. Qu'il a pas le petit coup en plus qui permet de le battre. En revanche, il peut en user et
la question, c'est de savoir dans quelle partie de tableau il sera, quoi. Voilà.
Ouais, exactement.
Et savoir s'il sera dans la partie de Novak Djokovic ou dans la partie de Rafael Nadal. S'il est dans la partie de Novak Djokovic, je pense que ça va pas forcément lui plaire au Serbe.
Non, c'est sûr que c'est pas facile à passer un Ferrer. Mais bon, dans les grands tournois, j'ai toujours la préférence.
Général,
un joueur qui a déjà gagné des grosses choses et qui a vraiment envie d'y aller, comme Djokovic.
En général, c'est un petit
peu
compliqué.
Mais bon, un Federer peut avoir des problèmes contre Ferrer sur terre battue, peut-être, en ce moment.
Ouais, c'est vrai. Alors, un Almagro, autre style, beaucoup plus puissant, beaucoup plus talentueux, beaucoup plus explosif, beaucoup plus imprévisible.
On y croit pas.
Fantasme, Almagro.
Première fois dans le top 10?
Jamais.
Fantasque.
Mais tout ça, c'est la même génération dont on parle.
Souvenez-vous du match l'an dernier à Roland-Garros d'Almagro contre Nadal.
Un match.
2 ans avant, il avait pris 600-600-600 en quart de finale. L'année dernière, ça nous fait quand même 2 tie-breaks.
Un match, Eric.
Il est quand même pas mal.
Oui, à Madrid, il aurait pu le battre aussi.
Et à Madrid, il aurait pu le battre.
Mais avec Messi, on mettrait Paris en bouteille. Attendez,
c'est pas faux.
C'est la même génération.
Moi, j'essaye de créer un peu le...
Djoko, Nadal.
Il y en a qui va être très intéressant, c'est Del Potro. Mais faut voir à quel niveau il va revenir vraiment. Mais Del Potro en forme et avec la foi en lui qu'il avait à l'US Open quand il l'a gagné, c'est un candidat. Au trio de tête.
Et avec ce fameux profil grand, moins gêné par les hauteurs de balle.
Et en plus, Del Potro, il faut souligner l'intelligence de son calendrier pour son retour. Ouais. Il va jouer des petits tournois. Il a fait l'impasse sur Monaco, évidemment.
Ah, il a beaucoup joué dans un premier temps.
Oui, mais dans
qu'il avait faim.
Il joue dans des relativement petits tournois. On rappelle qu'il a quand même gagné Delray Beach. Et là, par exemple, il est à Estoril. Il joue cette semaine dans des tableaux un peu moindres. Pour se tester, pour monter en puissance, pour gagner des points, pour gagner du rythme, je trouve qu'il revient très très bien. Et ce qu'il fait, on l'a vu même sur la tournée sur dur aux États-Unis, c'est vraiment très très bien.
Quart de finale contre Söderling, d'ailleurs,
attention,
match intéressant
lui, ouais.
Du côté d'Estoril, entre Söderling et Del Potro, pour un tournoi d'Estoril, ça fait une sacrée belle affiche.
Oui, et puis ce sera intéressant de voir Söderling face à un adversaire qui a un petit peu plus de... confiance en lui que Jérémy Chardy, parce que Jérémy Chardy, il a quand même pris un set à Robin Söderling. On s'interrogeait la semaine dernière dans Carrément Tennis, dans cette même émission, sur la forme de Robin Söderling, qui était un petit peu blessé, qu'on trouvait pas vraiment à son meilleur niveau. Robin Söderling, c'est un peu quand même l'inconnu de ce début de saison. On n'a pas l'impression que le Suédois soit à son niveau des saisons précédentes et qu'il puisse de nouveau être un candidat à Roland-Garros cette année, puisqu'on va tous tendre désormais vers
Roland-Garros. Mais l'an dernier, on disait la même chose. On disait qu'il ne défendra jamais sa finale de Roland, c'est impossible. En plus, il expliquait qu'il n'endormait pas la nuit, qu'il avait une pression
mais
monumentale.
Mais à Nice, il avait fait un tournoi catastrophique.
Il a quand même refait le coup de la finale l'année dernière.
C'est vrai, mais après, il y a des tournois, comme l'expliquait très bien, je crois que c'était Carole la semaine dernière, qui l'expliquait très bien. Carole Bouchard, elle disait, il y a des tournois dans lesquels, même si on a mal joué pendant 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines avant, Et ben dans ce tournoi-là, on sera bon. On sait pas pourquoi, parce que c'est l'environnement, c'est le cadre, etc. Il se passe quelque chose dans ce tournoi-là. Et visiblement, ce tournoi, c'est Roland pour ce Derling.
Quelque part, ce Derling cette année, on le retrouve tel qu'on l'a toujours connu par le passé, avant sa finale à Roland. C'est-à-dire, il a été excellentissime en début de saison sur surface ultra rapide et notamment en indoor, en gagnant à nouveau Rotterdam, par exemple. Et puis sur terre, un peu plus en difficulté. En plus, il y a eu cette petite blessure.
Et puis changement d'entraîneur. Est-ce que avec son entraîneur, avec Magnus Norman qui soit bon sur terre battue, ça peut se comprendre. Norman, c'était un excellent joueur de terre. Est-ce qu'avec son nouvel entraîneur, il va réussir à retravailler, à remettre en place son jeu sur la terre battue?
C'est une. S'il y avait une surface ou Claudio Pistolesi,
oui,
s'en sortait pas trop mal.
Sur
la pizza.
Ouais, mais la technique d'entraînement est peut-être pas forcément.
On était étonné de voir Söderling gagner en indoor avec Pistolesi parce que c'était pas trop le truc.
Söderling prend de l'embonpoint peut-être aussi.
Oui, peut-être. Le Suédois qui se met à la pizza, c'est pas forcément une bonne chose. Donc Söderling, non.
Non, moi je crois pas, moi, cette année.
C'est pas le garçon que j'aurais placé tout en haut de la liste non plus, mais c'est comme ça.
Non, mais c'est quand même un joueur qui peut retrouver un jeu d'un seul coup. Ouais. C'est-à-dire que c'est un joueur qui fait des coups, qui a un jeu de shotmaker comme les Anglais. Et il n'a pas forcément besoin de construire une solidité en fond de court comme d'autres. Il peut très bien, une fois qu'il a retrouvé la sensation et l'esprit, d'un seul coup trouver un niveau beaucoup plus intéressant.
Alors avant d'évoquer dans la deuxième partie de l'émission Novak Djokovic, son retour à Belgrade et ce match à venir peut-être face à Rafael Nadal du côté de Madrid ou de Rome, et d'évoquer également le cas des Français, je voudrais qu'on termine cette première partie. On en a un petit peu parlé en début, mais je voudrais qu'on revienne quand même dessus. Quid de Roger Federer qu'on met quand même pratiquement de côté. Alors c'est vrai qu'il y a eu ce non-match face à Melzer à Monte-Carlo. C'est vrai qu'il ne brille plus comme il a pu le faire par le passé. Est-ce que Roger Federer...
Il se met de côté tout seul. Hein.
Il s'est mis de côté tout seul.
On le voit pas, on sait pas où il est. Quand il est sur un terrain, il le traverse, t'as un fantôme. Enfin, le match contre Jürgen Melzer, c'est catastrophique.
C'était triste.
Il veut pas être là, il aime pas être là, il aime pas jouer, on a l'impression, sur cette surface. En plus, tous les joueurs jouent le même jeu contre lui désormais sur terre battue, donc ça l'ennuie profondément. On a l'impression qu'il veut plus progresser. Je suis inquiet.
Pourtant, il dit exactement l'inverse de tout ce que vous
racontez. Oui, non, mais ça, c'est un grand champion.
Non, mais après, voilà, il fait peut-être de l'auto-persuasion lui aussi.
C'est
mais...
pas qu'il fait peut-être, il fait absolument de l'auto-persuasion. Mais tous les grands champions, comme tu disais, font de l'auto-persuasion en permanence, et c'est ce qui les rend aussi forts. Le seul problème, c'est qu'en ce moment, celle de Federer, elle sonne un peu faux, quoi. Et avec son refus d'admettre le moindre allusion à une possibilité de déclin, je pense qu'il nie la réalité. Et à partir du moment où il la nie totalement, il y a un décalage entre ce qu'il peut produire et ce qu'il prétend le faire. Et j'ai l'impression que c'est au moment où il admettra qu'effectivement il a passé son apogée. Alors, j'utilise pas le mot déclin, parce que dès qu'on met le mot déclin sur un champion, c'est
en général là où il gagne derrière.
Voilà. Non, puis c'est le moment où on se fait poignarder par tout le monde, parce que le déclin, un champion, il y a toujours un moment où un champion baisse. Et Federer n'est plus le grand Federer qui a été le maître du tennis pendant 4 ans.
Mais la question n'est
pas. Donc maintenant, il faut qu'il le comprenne. Enfin, je pense qu'il le comprend intuitivement, mais il refuse. Il refuse sa fragilité, quoi. Il refuse de concevoir que ça puisse être un peu différent. Et là, j'ai l'impression qu'il faut qu'il fasse un réajustement de son mode de pensée. Sinon, je crois qu'il peut toujours faire des grands tournois. Je
voilà,
crois pas qu'il puisse faire des grandes saisons, mais des grands tournois.
L'objectif d'un Federer, c'est de nous faire, peut-être comme Sampras avait fait en fin de carrière, à gagner encore un ou deux grands chelems. À Wim ou à l'US Open ou ailleurs. Il est capable de gagner partout, Roger Federer. Mais...
Je me demande si dans sa tête, il n'a pas non plus l'objectif des Jeux Olympiques
de
Londres. Et qu'en ce moment, il se réserve un petit peu peut-être pour cette période-là, je ne sais pas.
Ouais, mais
je pense que c'est son gros objectif. Quoi.
Il construit mal sa saison, il construit mal ses objectifs. Enfin, je ne m'appelle pas Roger Federer, je ne serai jamais un grand champion. Mais je trouve qu'il devrait aujourd'hui construire sa saison autour de Wimbledon, autour effectivement de l'objectif Londres 2012.
Mais est-ce que ce n'est pas ce qu'il est en train de faire?
Et peut-être un petit peu autour de la Coupe Davis, même si ils s'en moquent, et je trouve ça terrible. Mais non, mais je trouve ça catastrophique, parce que bon, d'abord c'est une compétition que j'aime beaucoup, mais en plus je pense que Roger Federer, c'est quelqu'un qui ne se moque pas du classement, et je trouve que aujourd'hui Roger Federer gagnerait à oublier le classement qui est très prenant pour tous les grands champions, et accepter d'être 7e, 8e joueur mondial, 5e, 6e joueur mondial, et construire sa saison autour d'objectifs. Et je pense qu'il l'a construit encore cette saison, qui est sans doute une saison charnière pour lui, comme les autres saisons.
Mais alors, moi j'ai une explication là-dessus, c'est que 285, je vous donne qu'un seul chiffre, 285, le nombre de semaines passées par Roger Federer à la tête du classement mondial. Pete Sampras est à 286. Il lui manque toujours cette fameuse semaine, une seule. Et il sait que, même si Djokovic est en train de, malheureusement de faire ce qu'il faut pour lui aller prendre cette place de numéro mondial, il sait que Nadal a 8000 points à défendre d'ici l'US Open et que s'il y avait un moment où il pouvait encore passer numéro 1, c'était peut-être cette année quand Nadal avait un nombre incalculable de points à défendre. Et donc, je pense que cette semaine, ce record, parce que c'est un homme de record quand même, quoi qu'ils en disent, il chasse les records, les joueurs de tennis, comme tous les champions d'ailleurs, et il la veut cette semaine. C'est pour ça qu'il s'accroche encore au classement.
Ouais, mais il faut, enfin moi, ça me donne parfois l'impression, parce qu'il faudrait parler de l'entourage, il faudrait que l'entourage lui parle autrement aussi, ça me donne un peu l'impression, c'est le boulevard du crépuscule, quoi. C'est-à-dire l'espèce de star qui voit pas qu'elle est sur le déclin, je vais utiliser ce mot-là quand même, à qui on, surtout on ne veut pas le dire, et c'est un peu triste de voir quand il s'arrête en quart, en demi-finale, tout l'agent, tout le monde, le clan autour, et surtout on sent qu'ils sont tous dégoûtés à l'intérieur, et on dira rien, c'est pas grave, je veux dire, personne n'enlèvera jamais Roger Federer ce qu'il est, ce qu'il a été et ce qu'il sera encore. Il n'y a pas de honte à dire, moi je veux faire péter des grands chelems maintenant, mais il faut effectivement l'accepter, et qu'il accepte qu'il n'est plus celui qu'il a été. Il a 30 ans.
C'est vrai. Philippe ?
J'en ai 60, alors ça...
Ah bah, ça va, il y a de la marge alors pour notre ami Roger Federer. Allez, c'est déjà la pause dans Carrément Tennis. Les infos dans quelques secondes, puis la deuxième partie où on parlera longuement de Novak Djokovic et de nos petits Français, avant d'évoquer les filles Caroline Wozniacki avec Martina Navratilova.
RTL L'équipe, Carrément Tennis. RTL L'équipe, Carrément Tennis. Superbe attaque de couloir. Eric Silvestro.
La deuxième partie de Carrément Tennis, nous sommes ensemble encore pendant une petite demi-heure en compagnie de Philippe Bouin, jeune retraité de l'équipe, Clément Grèze et Myrtille Rambion, nos absents du jour, Émilie Loua, Benoît Mélin, Carole Bouchard et Julien Varlet. Nous leur passons un grand petit coucou. Dans cette deuxième partie, nous allons boucler le dossier Federer-Nadal terre battue. Nous allons nous pencher sur le cas de Novak Djokovic, l'homme du début de saison 2011, invaincu, 25e victoire pour son retour sur les terrains. C'est à Belgrade, chez lui, au milieu d'une une foule qui le harcèle quasiment, Novak Djokovic, le Serbe le plus célèbre désormais, détenteur d'un passeport diplomatique comme ses collègues vainqueurs de la Coupe Davis. Nous parlerons également des Français, ça se complique pour Joe Wilfried Tsonga, toujours seul et sans coach, battu dès son entrée en lice à Estoril par Cuevas, l'Uruguayen. Alors vite, un coach ou pas pour Joe Wilfried Tsonga et puis mon fils Gasquet, tranquillement leur petit bonhomme de chemin, mais on attend un petit peu mieux dans les prochaines semaines. On finira l'émission avec ce buzz créé par Caroline Wozniacki qui annonce peut-être une future collaboration avec Martina Navratilova. Like
RTL L'équipe, Carrément Tennis.
Direction de Belgrade pour évoquer le retour sur les terrains de Novak Djokovic. Philippe, vous vouliez rajouter sur le dossier Federer-Nadal qu'on évoquait dans la première partie
oui,
de l'émission.
Juste un point de détail, parce que je repensais à ce que nous avons dit. Le ton de ce que nous disions donnait un peu l'impression qu'on voyait Nadal foutu et Federer
foutu.
Comme un, Federer comme un moins que rien, enfin quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il doit faire. Bien évidemment pas. Moi, j'ai 30 ans de journalisme de tennis. Ce sont sans doute deux des plus grands champions que j'ai côtoyés, des types qui ont, au-delà de la dimension du champion sur le court, une dimension extérieure. Donc, bien évident que nous ne pouvons pas nous mettre à leur place et pas du tout leur dicter ce qu'ils ont à faire. Mais c'est vrai, je rejoins Myrtille tout à l'heure pour Federer. En ce moment, j'aimerais voir Federer et l'entourage de Federer en particulier prendre le problème de sa fin de carrière, parce que voilà, c'est ça qui va se poser. Ça va être une fin de carrière qui va durer 5, 10 ans, je sais pas. Il va durer très longtemps, très bien, mais c'est la deuxième partie de carrière, on va dire, il serait bien qu'il l'envisage sans doute un peu différemment.
Et je rajouterais même que nous souhaitons le meilleur pour les deux et la critique n'est pas gratuite. Au contraire, on a envie qu'il fasse encore de belles choses.
La question, c'est un peu quel modèle suivre pour Roger Federer ? Est-ce qu'il doit trouver par exemple le modèle chez Pete Sampras?
Mais rappelez-vous Sampras, il y a eu un moment où il est en train de lire des petits billets que lui passait sa femme sur le cours numéro 2 de Wimbledon, alors qu'il était en train de se faire battre par un Suisse quasiment inconnu. Sampras lui aussi est passé en fin de carrière par des périodes difficiles. Il n'y a pas de fin de carrière facile. Le seul peut-être que je vois qui est une fin de carrière invraisemblable, c'est Connors. Connors est rentré dans un revival à 35 ans, 36 ans, 37 ans, 38 ans, 39 ans. Federer n'en est pas là. Federer, il en est à la phase après la splendeur, juste après la splendeur.
La prise de conscience. En fait.
Et quelqu'un comme Connors, d'ailleurs, si on se rappelle bien la carrière de Connors qui a été quand même qui a duré 20 ans, il y a eu un moment où on a dit quand il s'est marié et qu'il a plus gagné de grand chelem, il est foutu. Et il s'est mis à gagner des grands chelems en 82. 10 ans après ses premiers et 5 ans après les
derniers. Mais Connors a plus fait une agacie, c'est-à-dire qu'il y a eu un trou au milieu de la carrière, puis une deuxième carrière.
Non, mais il a continué à jouer, Connors.
Oui,
c'est lui qui a le record de titres
109,
exactement. Donc il a continué à jouer, seulement il n'arrivait plus en grand chelem.
Voilà.
Il arrivait plus, il passait plus les demi-finales.
Mais
il faisait
deux...
même plus de finales. Il prenait des fessées par Lendl.
Il y a eu deux périodes fastes.
Après avoir mis des fessées à Lendl. Donc il y a un moment, on a cru que Connors, il était fichu. Et pareil, donc il faut pas non plus tomber là-dedans. Federer, moi je pense encore de beaux jours devant lui, mais à condition de peut-être faire son deuil de ce qu'il a été et ce qu'il n'a pas encore réussi à faire.
Ouais, ça c'est l'orgueil des champions également, bien sûr. L'orgueil, tiens, Novak Djokovic, la transition est toute trouvée. Il en a beaucoup, il marche beaucoup au mental, Novak Djokovic, et à cet orgueil qui a fait que lorsqu'il est arrivé sur le circuit il y a quelques années, il a déclaré haut et fort et claironné même « je veux être numéro un mondial ». À l'époque, il y en a beaucoup qui en riaient. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins qui en rigolent parce que il est tout près peut-être de son objectif. Alors pas en termes de points encore parce que l'écart avec Nadal est toujours important, mais une nouvelle fois, comme Nadal a beaucoup de points à défendre et surtout ce début de saison incroyable de Novak Djokovic, invaincu, 25e victoire, 4 titres, voilà, il est intouchable, invincible depuis le début de la saison. Il va perdre, Mirti, c'est évident. Est-ce qu'il va perdre tout de suite sur terre battue contre
Vous
ne
voulez pas
Nadal
vraiment une réponse de ma part là.
Pas à Belgrade.
Alors à Belgrade,
Non, mais ça va être très intéressant, cette, évidemment, cette saison sur terre, parce qu'on l'attend, parce que lui dit, et il le pense vraiment, qu'il peut battre Nadal, il va tout faire pour, et ça peut arriver.
Il a raison.
Bien sûr. Maintenant, on va voir, parce que, ok, il s'est reposé, allez, 3 petites semaines, là, mais enfin, vu ce qu'il vient d'enchaîner, il s'est pratiquement pas reposé à l'intersaison, à tel point que c'était quand même invraisemblable ce qu'il a réussi d'enchaîner sur l'Open d'Australie et tout, après cette pression invraisemblable en finale de Coupe Davis. Il y a bien un moment où ça va aller moins bien. Alors, il surfe sur la vague, tant mieux, on va voir jusqu'où est-ce que ça va le mener, jusqu'à Roland Garros, jusqu'à après, jusqu'à la fin de saison. Moi, je demande à voir parce que c'est un joueur qui me plaît de plus en plus.
À l'inverse, la gestion de son calendrier est, je trouve, pour le coup, plutôt intelligente. Bon, la Coupe Davis, de toute façon, il était en finale, il voulait absolument la gagner, il n'avait pas à ne pas la faire. Derrière, quelque part, il n'a joué que 4 tournois depuis le début de la saison.
Il les gagne tous.
Il les a tous gagnés. Et derrière, au moment où il est en pleine confiance, où il bat Nadal 2 fois en finale de Master 1000 à Indian Wells et Miami, on arrive à Monte Carlo où Nadal a des points à défendre et où Djokovic a un coup à jouer. Donc on se dit, il va jouer. Et non, il dit quand même, là, je sens, je suis cuit, il joue pas un Master 1000 dans lequel il aurait pu prendre des points et justement surfer sur la vague. Donc c'est plutôt intelligent quand même.
Ah, c'est même très intelligent, c'est très bon signe parce qu'on se rappelle qu'il a complètement explosé certaines années en arrivant à Roland-Garros parce qu'il était complètement rincé. Donc non, Djokovic a fait d'énormes progrès. Moi je suis assez content de voir ce qui s'est passé parce que j'avais des petites discussions avec des confrères à la finale de la Coupe Davis à Belgrade, où on avait dit mon fils et Simon n'ont pas été bons et tout. Et moi, du bord du cours, pour une fois, on était bien placés. Merci la Fédération Internationale de nous avoir bien placés cette fois-là au bord d'un cours. Eh bien, on voyait de Djokovic de très près et c'était très, 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 très fort ce qu'il a fait à Belgrade. La longueur de balle, le service, le retour, la permanence, les retours, la cadence, le minimum d'erreurs, sauf au moment de conclure, comme un peu toujours quand il joue contre Simon le premier jour. Mais c'était du très gros Djokovic. Et là, on voit un Djokovic qui est arrivé à maturité, je pense. Il a très longtemps, moi, c'est un joueur qui, j'ai souvent comparé à Lendl mentalement, c'est quelqu'un qui hésitait entre présomption, c'est-à-dire qu'il fanfaronnait en claironnant qu'il allait faire des choses formidables, et puis, au fond, un manque de confiance réelle en soi, avec des envies de se faire plaindre par sa maman dans les gradins quand ça allait mal. Et c'était toujours deux Djokovic qu'on pouvait rencontrer sur le court. On se disait, tiens, lequel va sortir ce jour-là? À quel moment on va voir le gamin arriver?
Et d'ailleurs, le fantasme était aussi pour cacher un peu l'autre.
Oui,
c'est une façon
sûr,
de...
Voilà. C'est les deux revers de la même pièce, les deux faces de la même pièce. Et donc, ce Djokovic-là, j'ai l'impression que maintenant, il a réussi à savoir exactement ce qu'il vaut et comment y arriver, et comment arriver à faire ce qu'il faut. Et c'est un très bon signe. Seul petit doute que j'ai, c'est sa déclaration justement quand il dit « Maintenant, je vais me faire Nadal sur terre battue ». Là, j'ai l'impression de revoir l'ancien Djokovic arriver, disant « Obligé de claironner un truc pour pas qu'on le prenne pour une bille
ouais, ».
Non, il n'a pas besoin de ça.
Il ne peut pas ne pas le dire. Il peut pas ne pas dire « Tout le monde l'attend, tout le monde attend le duel face à Nadal ». Il peut pas ne pas dire « Mon objectif, c'est de battre Nadal sur terre battue ». Son objectif, c'est être numéro un mondial. Donc, son objectif est forcément de battre les meilleurs sur leur meilleure surface.
Regardez Nadal. Écoutez Nadal, comment parle Nadal.
Mais Nadal
Oui, Nadal domine, mais même quand il ne dominait pas, même quand il était d'ailleurs
Federer,
il n'a jamais dit qu'il voulait aller foutre la fessée à Federer. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de prétendre quelque chose pour le vouloir vraiment. Et c'est une force extraordinaire, ça. Le besoin de se dire « Ah, je fous que je batte machin pour le battre », c'est une forme de faiblesse, en fait.
Ouais, mais après, il y a deux caractères chez les champions. Il y a celui qui a la chance incroyable d'avoir une certitude, une force en soi, et c'est le prototype Rafael Nadal, élevé depuis 14 ans, et qui constate depuis 13 ou 14 ans qu'il est au-dessus de tous ceux de sa génération, qu'il est plus fort, qu'il se
Non.
Il n'était pas tout
non,
à fait
Richard Gasquet. Moi, je dirais, il y a deux écoles. Il y a la famille Nadal d'un côté qui ne dira jamais à Rafael Nadal, mais mon chéri, tu es meilleur que tout le monde, tu es le plus beau, tu es le plus fort. Alors que côté Djokovic, c'est ça depuis
oui, mais
tout
il s'est construit à force de travail en sachant pertinemment.
C'est laborieux, Nadal.
Voilà, et en étant élevé dans la certitude que tout cela allait payer un jour et qu'il se construisait une carapace tennistique, une carapace psychologique pour devenir un jour le meilleur. Novak Djokovic, c'est pas du tout le même état d'esprit. On est face à un champion, effectivement, qui a été sans doute un petit peu couvé, à qui on a expliqué qu'il était le meilleur et qu'il devait être le meilleur pour... Enfin, qu'il devait penser être le meilleur pour être le meilleur.
Un besoin de reconnaissance aussi, c'est Novak Djokovic.
Besoin de l'exprimer chez lui. Mmh. Voilà. Finalement, dans le parcours de Novak Djokovic, rien n'interdit de penser que, finalement, même s'il a claironné, bah, il s'est pas beaucoup trompé. Quoi.
Ah non, bien sûr. Non. Mais c'est... moi, je trouve que ce que je veux dire, c'est que c'est quand il claironne qu'il me paraît le plus fragile. Donc, il n'avait rien dit depuis le début de la saison, d'ailleurs. Vous avez remarqué que ses déclarations étaient extrêmement lisses, tranquilles. Et là, on retrouve une petite pointe de « attention, vous allez voir ce que vous allez voir ». Mais bon, je pense qu'il a les moyens de bien faire. Et je pense, effectivement, moi, qu'il est capable de battre Nadal sur terre battue dès maintenant. Parce que ce qu'il avait montré il y a 2 ans à Madrid était incroyable. Et il joue mieux maintenant qu'il ne joue à Madrid.
C'est vrai. Alors après, petit bémol... à Indian Wells et peut-être encore plus à Miami, Nadal est quand même tout près de gagner sur le terrain de jeu peut-être favori de Novak Djokovic. Donc l'écart, parce qu'on en dit Djokovic est invincible depuis le début de la saison, c'est vrai dans les résultats, il a gagné ses 25 matchs, il a gagné les 4 tournois qu'il a disputés, mais la marge qu'il a eue notamment à Miami contre Nadal était plus qu'infime puisque Nadal était à 2 points du match. Et donc voilà, de là à dire sur terre battue, la donne revient quand même légèrement en faveur de Rafael Nadal. Je pense que ça va être très serré, quoi qu'il arrive. Mais bon, on verra ce que donnera Novak Djokovic.
Faudra voir la première défaite, après la première défaite. Et voir comment il va gérer, contre qui elle sera, cette première défaite. Comment il va la vivre psychologiquement. Parce que, effectivement, je pense que c'est quelqu'un qui marche à la confiance. Et là, il se sent invincible et ça l'aide terriblement à mettre en place son jeu, qui est un jeu qui nécessite énormément de confiance parce qu'il y a beaucoup de prises de risque, même s'il joue en cadence. Et du coup, voilà, j'attends de voir quand même comment ça va se passer juste après la première défaite.
On ne l'a pas précisé, c'est quand même 0 sur 9 face à Nadal sur terre battue. Même si, on l'a dit, à Madrid, ça avait été vraiment 4 heures et 3 minutes en demi-finale, ça s'est joué à 3 fois rien. Il n'a quand même jamais gagné en 9 matchs contre Rafael Nadal. La chose qui a changé aussi, on peut le préciser, c'est qu'il n'avait jamais battu Nadal en finale d'un tournoi et qu'il vient de remporter les 2 dernières finales contre Nadal à Indian Wells et à Miami. Et ça aussi, psychologiquement, ça peut être important pour lui.
Moi, je pense
et pour Nadal aussi.
Tout va dépendre, c'est terrible ce que je veux dire, tout va dépendre du niveau de Nadal. C'est-à-dire, s'il joue vraiment... comme on l'a vu là à Monte-Carlo. Mais il faut dire aussi qu'en face, il n'avait pas quelqu'un qui lui permettait de hausser son niveau de jeu. Regardez, à Miami aussi, Nadal, quand il joue contre Federer, c'est époustouflant ce qu'il réussit. Voilà, il a réussi à hausser son niveau de jeu là-dessus. Maintenant, il n'a pas eu de vrai adversaire en face là. Mais s'il joue un peu moins bien que l'année passée et qu'il ne joue pas très très bien... Djokovic va s'engouffrer là-dedans. Maintenant, si Nadal hausse son niveau de jeu, pour moi, ça ne va pas faire un pli. Ça sera accroché, mais ça ne va pas faire un pli.
Alors, le nouveau Djokovic aussi, parce que la saison du printemps, d'habitude, est celle des allergies pour lui et des problèmes de chaleur et de physique et de terre battue. Et là, on apprend, comme par miracle, il y a un nouveau, non pas gourou, parce que je n'aime pas le mot, mais ça me fait toujours rire, une nouvelle personne très importante dans le staff de Novak Djokovic. Il s'appelle Igor Setoyevich. C'est un psychonutritionniste qui, apparemment, est en train d'aider énormément.
On en avait déjà parlé au début de saison.
Novak Djokovic, il lui a donc décelé...
De la biofeedback.
Exactement, il lui a décelé apparemment une allergie au gluten. Novak Djokovic fait très attention à ça. Il a maigri, il a perdu du poids, il n'a plus d'allergie, mais il ne peut plus manger. Alors ça, c'est quand même le comble pour un sportif, apparemment de pâtes, notamment.
Ouais, ni pizza,
et pizza,
ni
et
pain
et compagnie. Mais alors, un sportif qui ne mange plus de pâtes...
Quelle purge d'être un sportif de haut niveau.
C'est horrible maintenant.
Quelle horreur.
Il bouffe du tofu et des graines.
C'est horrible.
Il n'y a qu'à boire du vin, ça.
Voilà. Il y en a des très bons, je crois.
Il y en a des très bons. On vous donnera les adresses. Non, mais c'est vrai que ça, c'est important. Parce que.
S'il est débarrassé de ses allergies, c'est très important. Moi, j'attends de voir, parce que moi, j'ai toujours un doute sur Djokovic physiquement, c'est sa façon de réagir à la chaleur, qui, moi, me rappelle la façon dont Sampras réagissait à la chaleur. Et Sampras était atteint, on l'a su, à la fin de sa carrière, d'une anémie qui s'appelle la thalassémie, qui touche les populations des rivages méditerranéens. Et la Grèce, la Croatie, la Serbie et beaucoup d'autres régions du même genre. Et Djokovic, moi, m'a donné l'impression d'avoir toujours les mêmes symptômes que Sampras. C'est-à-dire, dès qu'il faisait chaud, il commence à avoir des problèmes de respiration, il a des haut-le-cœur, il a une fragilité à la chaleur. Est-ce que ça venait de cette allergie au gluten? Peut-être. parce que l'allergie au gluten, elle est assez répandue, hein, et c'est une allergie assez courante. C'est possible. Si jamais la solution était vraiment trouvée, là, ça va lui permettre de faire un grand pas en avant sur terre battue, ça fait aucun doute.
Et de se sentir très fort, justement.
Et de se sentir beaucoup plus fort. S'il y a toujours ces mêmes petits problèmes de chaleur, dans ces cas-là, il faut mieux pour lui qu'il ne fasse pas trop chaud pendant Roland-Garros, mais ça, on a l'habitude.
Alors, pardonnez ma question de novice et de, notamment dans tout ce qui est médical, mais j'imagine qu'on a regardé s'il avait un problème de thalassémie.
Vous verrez, en vieillissant, vous deviendrez beaucoup moins novice. Non, mais oui, je lui ai posé la question au moins une fois, il s'est tellement renfermé que je n'ai pas osé revenir. Il m'a envoyé il y a 15 mètres.
Ça ne vous regarde pas.
Oui, mais ça aurait plutôt tendance à moi me faire croire qu'il y a un petit...
Quelque chose de ce côté-là.
Sous roche, quoi. Mais bon, peut-être était-ce une question idiote et peut-être avait-il raison de m'envoyer à ce
À voir. En tout cas, il est amaigri, mais comme Nadal aussi a perdu un peu de poids il y a un
an,
ils deviennent de plus en plus secs parce qu'il faut jouer longtemps, tenir longtemps. La puissance, c'est bien, mais il faut aussi avoir la légèreté dans le déplacement. C'est vrai qu'on l'a vu très, très affûté, Novak Djokovic, notamment sur la tournée américaine et depuis le début de la saison. Il a perdu du poids, il le dit.
André Agassi disait qu'il fallait être un peu gros avant de rentrer dans un tournoi du Grand Chelem, alors... Qu'est-ce pour expliquer qu'il était un peu gros, lui, mais non, parce qu'il considérait qu'il perdait beaucoup de poids pendant un tournoi de Grand Chelem.
D'accord.
Et que ça lui coûtait beaucoup d'énergie, donc il fallait mieux avoir un peu de réserve à l'entrée que pas assez.
Bon. En tout cas, c'est vrai que les grands champions, ceux qui durent, ceux qui réussissent, à partir d'un moment dans leur carrière, se rendent compte qu'il faut qu'ils fassent plus attention à ce qu'ils mangent, qu'ils se fassent suivre. Voilà, il n'y a pas de secret là non plus. Même Agassi, il a arrêté finalement au bout d'un moment les hamburgers et les frites. Hein.
Même chose en journalisme.
Oui.
Pareil. Pour tenir.
Pas toujours. Personne ne peut le battre à Belgrade ou si quelqu'un peut le battre à Belgrade. Alors à Belgrade, il doit gérer le tournoi, qui est son retour sur le circuit après 3 semaines de coupure. Il doit gérer la pression. Il joue chez lui, dans son club.
Le Novak Tennis Center. Hein,
exactement.
C'est-à-dire la pression quand même.
Très jolie photo à découvrir d'ailleurs dans le journal de l'équipe en dernière page aujourd'hui de Djokovic à l'entraînement avec une bâche énorme à son nom derrière lui. Je trouve la photo absolument magnifique.
Je dirais que le danger qu'il court, c'est la blessure. Parce que dans ces situations de stress, il doit être dans une situation de stress extrême avec des sollicitations de tous les instants. Et moi, la trouille que j'ai toujours quand je vois un sportif dans ces situations-là, c'est la blessure. Parce que très souvent, des petits accidents bêtes arrivent dans ces situations-là où l'esprit est très tendu et le corps aussi, et un faux pas, et voilà, ça se tourne en entorse et en bêtise.
Et sans doute, les semaines de coupure pour ça ont été sûrement bénéfiques, ça c'est certain, en tout cas pour la tête. Le passeport diplomatique, c'est
la
petite clin d'œil rigolo de toute l'équipe de Coupe Davis, Simončič, Tipsarevic, Trojki, et Djokovic, donc, qui bénéficie désormais d'un passeport diplomatique.
Tipsarevic, on se demande pourquoi il l'a d'ailleurs.
Pour avoir offert une première coupe, tout simplement parce que c'est lui. Qui en demi-finale a remporté le cinquième match décisif. Mais c'est quand même pas rien, mon cher Clément, parce que s'il n'avait pas gagné le cinquième match en demi-finale contre la République tchèque,
ils auraient
jamais
rien
pu gagner la Coupe.
Pour ça, si je suis Mikhail Yodra, je refuse de faire équipe avec lui.
Passeport diplomatique.
Je pense que c'est peut-être dans l'autre sens que c'est en train de se passer en ce moment.
Pas
mais bon, parenthèse.
C'est utile un passeport diplomatique, Philippe Bouin, vous qui avez beaucoup voyagé à travers le monde pour suivre les
tournois. Faites pas la queue déjà aux États-Unis, c'est bien.
J'en ai jamais eu, mais éviter les queues dans les passages de douane ou de contrôle de police, c'est quand même très agréable.
C'est pas mal.
Le seul problème, c'est qu'on n'est jamais tout seul quand on se déplace. Du coup, on est forcément obligé d'attendre tous ceux qui l'ont pas.
Bien vu.
Bien vu, c'est pas bête ça.
Il faut peut-être alléger la suite des joueurs.
Voilà.
C'est une deuxième
phase. Mais s'il se déplace,
vous êtes en train de dire qu'il faut le donner au papa, au coach.
Se déplace, ça va être sa
le papa serait content.
Papa, il les attend quand même, mais de l'autre côté.
Si j'étais mauvaise langue, je dirais qu'il faudrait beaucoup de passeports pour les 12 de Novak Djokovic parce qu'il en a quand même connu.
Qu'est-ce que vous dites?
C'est quand même un petit don Juan, Novak Djokovic, depuis plusieurs saisons.
Si vous avez des preuves pour étayer vos propos, n'hésitez pas.
Il est en contact régulier avec Carole Bouchard, c'est pour ça.
Ah oui.
Si c'est tout des potins du
thé. Oui, elle est très fan de Novak Djokovic. Djokovic, Carole Bouchard. Bon, nous la saluons encore une fois d'ailleurs. Donc, pour vous, Belgrade, donc, il y a quoi? Il y a un petit Montanès, il y a.
Bon, les Serbes, de toute façon,
quand
finale,
ils vont arriver. Non, mais Trojki, quand il arrive face à Djokovic, c'est comme Wawrinka face à Federer.
Personne.
Ça gagne jamais.
Personne.
Attention au petit Devarman, là, ce petit Indien, cette mobilette qui renvoie tout, qui est un véritable mur et qu'on
Restez
va découvrir.
Restez polis, je vous en prie.
Voilà, Zverev, j'ai vu jouer son père, c'est très très difficile.
Oui, non, le tableau est quand même pas très très relevé du côté de Belgrade. Voilà, attention peut-être à Montanès.
On a revu
Ouais.
Qui existe encore.
Oui, Fernando González. Voilà. 8 mois. Alors la hanche, hein, comme les Norman, comme les. Il y en a
mais
eu d'autres.
Mais ôtez-moi d'un doute, il n'avait pas fait ses adieux. Fernando González, on l'avait annoncé retraité quand même.
Ah, mais il revient. Il a envie de revenir. Bien, mais... Il a gagné son premier match, il a perdu son deuxième. Mais
6-4-7-6 contre Feliciano López.
Moi, je trouve que c'est bien de revoir Fernando González.
Ah,
le Gonzo.
Tout à fait, oui. Dans ses bons jours, il est très amusant et dans ses mauvais, encore plus.
Joueur particulier, mais ô combien attachant, moi, je trouve, sur le circuit.
Je suis d'accord. Hein? Je valide.
Gonzo, demi-finaliste à Roland-Garros.
C'est les Bâches qui l'aiment beaucoup.
Les Bâches l'aiment beaucoup. Les doubles fautes aussi. Parfois, il sert des deuxièmes balles plus fortes que les premières. Voilà, c'est du Gonzalez tout craché. Intéressons-nous, braves gens, à nos Français et notamment à Joe Wilfried Tsonga, pour lequel non pas on s'inquiète, on n'en est pas encore là. Mais voilà, il est séparé d'Eric Vinogradsky. Et là, bon, Monte Carlo, il gagne un premier match contre Monaco où il s'éclate, il se bagarre pendant 2h30. Ok. Derrière, il perd contre Ljubicic. On se dit, bon, voilà, il manque de match, il manque de rythme. Ok.
Non,
là, il perd quand même contre Pablo Cuevas, l'Uruguayen.
Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ce qui est terrible, c'est pas tant la défaite. Parce que bon, voilà, il met son jeu en place, etc. C'est compliqué, d'accord. Ce qui est terrible, c'est les deux déclarations. Celle après le match contre Ljubicic, j'étais meilleur, mais j'ai perdu. Et celle contre Cuevas, où j'ai quand même pas de peau, le type en face, il joue le feu. Il y a un moment où, absence de prise de conscience, on en parlait pour Roger Federer, mais ça peut se comprendre parce que c'est un immense champion qui a énormément gagné et qui refuse d'être relégué au troisième ou quatrième rang de l'échelon mondial. Pour Joe Wilfried Tsonga, ça passe pas, quoi. Enfin, ça ne peut pas passer. On n'en est pas là. Il a pas cette stature qui peut lui permettre, l'autoriser à ne pas être conscient de ses propres lacunes. Il perd en deux manches contre Cuevas, qui n'existe pas depuis le début de la saison, qui est certes top 100, mais qui n'existe pas, qui peut être un bon joueur sur terre, mais voilà. Et il explique. La vérité, c'est que je suis vert, je me suis entraîné comme un dératé sur terre battue et je tombe sur un mec en chauffe totale, presque impossible de tirer la moindre leçon de cette défaite. C'est dire, le gars était in the zone et il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Bon, bah voilà, bah tout est dit. Alors, il peut perdre au premier tour de Roland contre un mec qui sera in the zone.
Non, mais ça me fait penser
normal,
à sa défaite à Wimbledon contre Karlovic où en gros, ah, c'est pas marrant, on peut pas jouer, le mec fait que servir. Bon, en gros, je cherche pas de solution, quoi.
Non, mais bon, alors, je vais jouer les contradicteurs, mais vous avez en partie raison. Mais est-ce qu'une des forces de Tsonga n'a pas été justement jusqu'à présent d'arriver à refuser de voir ses lacunes? C'est-à-dire qu'il s'est construit une confiance, il s'est construit une carrure un peu justement grâce à cette façon de nier ce qui était ses faiblesses.
Ouais, mais sauf qu'aujourd'hui, il bascule justement dans autre chose.
Alors après, bon, moi je n'ai pas vu le match contre Cuevas, mais compte tenu de l'évolution du style de jeu qu'il va avoir, qui est un jeu très offensif, il va passer par des matchs où il va prendre des fessées. C'est évident. Alors après, se tromper effectivement sur le diagnostic, c'est autre chose. Dire que c'est parce que le type était en chaleur, c'est peut-être simplement parce qu'il a attaqué 5 cm trop court. Mais j'ai pas vu le match, donc
oui,
c'est facile à dire.
Mais
chez Tsonga, il y a forcément ça. Et je pense que ça fait partie de ses forces. Après, je pense qu'une fois sorti du cours, une heure après, il va pas dire la même chose. J'espère. Il serait intéressant de le revoir aujourd'hui. Mais je pense que c'est quelqu'un d'intelligent qui est très capable de tirer des leçons d'une défaite aussi cruelle soit-elle.
Juste un petit mot, Philippe, sur cette résolution offensive et cette nouvelle orientation dans son jeu. On n'a pas eu l'occasion d'en parler avec vous. On en a parlé avec Julien, avec Emilie, avec Benoît. Moi, je veux bien. Mais on est en train de me faire passer de son gars pour un mec qui l'y met au fond du cours et puis qui, d'un seul coup, veut être résolument offensif. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même la base de son jeu et ça l'a toujours été. Et au contraire, c'est parce qu'il a voulu solidifier un peu pour aller encore plus haut. Voilà. Mais on dirait qu'il révolutionne son jeu. Non, il revient juste à ses fondamentaux. Et quelque part, c'est aussi un aveu que j'ai pas pu développer le reste, quoi.
Mais tout dépend de ce qu'il fait. Moi, je l'ai pas vu depuis le début de la saison. Le problème de Tsonga, c'est que quand il est arrivé sur le circuit, quand il est allé en finale Open Australie, il jouait un jeu extrêmement agressif.
Mais il jouait en the zone en chaleur, justement.
Il jouait effectivement sur des prises de risque maximum, mais pas forcément celle d'un serveur volleyeur. Est-ce qu'il veut faire évoluer son jeu vers le service volé, ce qui moi me paraît
pas un volleyeur.
Mais non, mais il peut la voler, ça s'apprend. Ouais. Et avec son service, avec sa présence au filet, avec sa taille, moi je pense que quand on voit les révolutions et les progrès qu'ont fait des gens comme Nathalie Tauzia, qui était quand même pas une carrure au filet énorme, Nicolas Escudé, Fabrice Santoro, en se tournant vers l'agression au filet, quand on voit les victoires qu'elles ont obtenues par rapport à ce qu'elles avaient avant, moi je pense que Tsonga a tout pour devenir un serveur volleyeur casse-pied pour tous les joueurs du monde aussi fort.
Mais est-ce que le tennis d'aujourd'hui le permet encore?
Ben oui, pourquoi pas.
À savoir, est-ce que quand vous avez des Nadal, des Murray, des Djokovic qui sont des relanceurs,
oui,
voilà, et des passeurs hors pair qu'on n'avait pas forcément par le
mais
passé.
Mais attention, il ne les battait pas non plus du fond du court, donc pourquoi est-ce qu'il prendrait pas le risque de jouer au filet? Moi je pense qu'il a plus de chances, Tsonga a plus de chances à battre Nadal ou Djokovic en venant au filet deux fois sur trois.
Ça, d'accord.
En restant en fond de court. À partir de là, la messe est dite. S'il veut devenir un des meilleurs joueurs du monde ou gagner des grands trucs, c'est ce qu'il doit faire. S'il veut rester top 10 et se faire battre régulièrement par Djokovic, Nadal et les autres, bah, il continue à jouer comme il jouait avant.
Mais moi, j'avais l'impression, enfin, je me suis peut-être trompé, mais que sa révolution était guidée par des problèmes de blessures. En gros, il avait fait le constat que son corps n'acceptait pas son jeu du fond du court et qu'il était donc obligé de raccourcir un petit peu pour éviter à ses genoux, notamment, des efforts qu'il n'était plus en mesure de faire. Donc, à la limite, si c'est poussé par une donnée physique, ça s'explique d'autant plus facilement.
Bien sûr, oui. En plus ça joue. Mais rappelez-vous l'an dernier à Wimbledon, moi ce qui m'avait frappé l'année précédente, c'est que justement, en voulant devenir plus costaud du fond du court, son gars avait perdu en puissance de feu, c'est-à-dire qu'il ne faisait son coup droit ne faisait plus mal, alors qu'avant, quand il a battu Nadal en Australie, il l'avait défoncé avec son coup droit. Le coup droit de son gars ne faisait plus mal. On avait revu à Wimbledon, et c'est là où c'est vraiment très dommage qu'il soit blessé contre Murray, parce qu'il y avait, on a revu de très bons moments de son gars à Wimbledon, avec une volonté beaucoup plus de prise de risque. Bon. Mais moi, j'ai le sentiment qu'un joueur de sa carrure, de son envergure physique, avec son service, avec des qualités de relanceur plutôt douteuses, aurait tout intérêt à se transformer en attaquant absolu. Oui, oui. Mais, et comme on l'a vu en France, quand même, il y a quand même quatre exemples de gens qui ont passé un cran dans le niveau de jeu, enfin dans le niveau du classement, pas forcément dans le niveau de jeu, au niveau classement. Oui, un niveau en dessous. Moi, mais lui, rester top 10, top 15 avec le jeu qu'il a, il le restera.
Oui, puis c'est un garçon qui préfère gagner un grand tournoi plutôt que de faire 10 ans dans le top 10. Maintenant, je vais être très dur, mais moi je pense que Tsonga, sa seule chance, c'est en effet, comme vous dites Philippe, de s'orienter vers ça, et, mais il faut aussi un « et » à mon avis, d'être en chaleur sur 15 jours.
Mais attention, lui, juste un petit bémol, lui ne parle pas de devenir serveur-volleyeur. Lui dit juste « je reviens à mes basiques ». Et je reviens le garçon que j'étais justement, qui avait des fulgurances, des choses comme ça. Pour le moment, il parle pas du tout de faire service volé.
Alors un coach ou pas, vite, je pense que là il est en train quand même d'y réfléchir sérieusement. Joe
plus
Tsonga.
Que réfléchir à mon avis. Là.
Il finalise.
Alors il nous a dit à Monte Carlo qu'il avait quand même en gros 50 000 messages et 50 000 mails d'entraînement. Mais il l'a dit gentiment en rigolant. Mais voilà, il se faisait pas de soucis pour les candidats potentiels.
Non, mais il disait peut-être faire comme un Roger Federer à une époque qui avait pas de coach. Mais là, je pense qu'il se rend compte qu'il a besoin de quelqu'un sans doute pour débriefer.
Est-ce que vous avez-vous réfléchi? Parce que moi, j'en vois toujours pas des évidentes de pistes depuis qu'il nous a annoncé son... Est-ce que vous avez des noms à me fournir, des idées? Parce que franchement, quand il me dit « je reçois plein de demandes », ok,
bon,
mais...
Hans Günther, t'es prêt.
Donc, Larry Stefanski n'est pas encore libre.
Je sais pas.
Entraîneur étranger, Philippe, vous voyez plutôt un étranger, un français?
Tu travailles avec Sven Grönfeld. Un petit peu.
Tu travailles, ouais.
Ils ont l'équipementier qu'il faut, je sais pas. Ouais.
Non, moi j'avoue, j'ai pas d'idée sur la question. Je le verrais bien se tourner vers un étranger. Oui. Je le verrais bien se tourner vers un étranger parce qu'il a été pendant des années l'enfant de la Fédération française de tennis et d'Eric Binogradsky.
Brad Gilbert.
Pourquoi pas
Pour jouer offensif, ça va être bien.
Mais lequel, je ne sais pas. Là, j'ai pas d'idée immédiate qui me vienne à l'esprit.
S'il a pas peur de perdre son service, il y a Todd Martin qui peut l'aider au niveau du jeu de service volé. Il nous reste une minute, très vite.
Ah bah tiens, parlons des filles.
Wozniacki, Navratilova, alors un tox ou... Vous qui êtes la spécialiste, Myrti.
Non, je pense il y a pour les avoir vues déjà dès l'Open d'Australie, elles discutaient beaucoup ensemble. Il y a une relation vraiment entre Wozniacki et Navratilova. Moi, vous savez très bien que Wozniacki, c'est pas ma tasse de thé, mais je demande à voir et ça me ferait plaisir enfin qu'une demoiselle fasse appel à Navratilova, qui est quand même le must, le nec plus ultra en termes de service volé. Si elle peut lui faire avancer, justement, aller un peu plus vers l'avant, être plus offensive.
Joe Wilfried Tsonga avec Navratilova, bien sûr, Philippe, je voulais arriver.
Sérieusement, il n'y a aucune fille qui s'est dit je vais aller voir Navratilova, et je sais qu'elle en était un peu dégoûtée, Navratilova, parce qu'elle a de l'orgueil de championne. Eh ben, moi, je demande à voir et j'espère que ça va se faire.
Sinon, il peut toujours demander à Nathalie Tosia ou à Fabrice Santoro ou à Nicolas Escudé. Merci en tout cas à
Santoro,
Philippe Boin.
Pourquoi pas, hein.
Bah, pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je voyais bien Santoro et Gasquet, mais bon, maintenant, il est pris Gasquet, donc... Non, ça vous... Mmh. Non, la moue de Philippe Boin. Vous n'avez pas l'image à la radio,
non,
mais...
Je voyais bien Santoro et Gasquet aussi.
Ouais, je pense que c'est... Bien. Mais j'ai pas renoncé à une petite association Santoro-Gasquet un jour dans le futur. Merci à Clément Grèze, à Myrti Rambion, à Philippe Boin. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau Carrément Tennis. On sera en plein tournoi de Madrid et normalement, Djokovic et Nadal seront dans le tableau tous les deux. Cette fois, rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous.
RTL, l'équipe, la radio sport et info.